Radio Okapi.
Le journal Belinda Bosuma.
Le discours du chef de l'État est attendu en début d'après-midi au Palais du Peuple. Félix-Antoine Tshisekedi sera devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès pour son traditionnel discours sur l'état de la nation. Ce discours intervient dans un climat politique tendu en RDC. Peut-être vers une paix durable au sud du Rome en Ituri. Le processus de démobilisation, désarmement et réinsertion communautaire est en cours d'exécution, ce avec l'ouverture ce lundi du centre de désarmement volontaire des éléments de la FRPI à Karachi. Et puis, la division provinciale de la santé du Nord Kivu, dotée des deux laboratoires d'analyse des cas suspects au coronavirus, y sont installés à Butembo et à Beni. Pour en parler, nous recevons Guy Makelele, chef d'antenne intérimaire de la division provinciale de la santé à Butembo. Madame, Messieurs, bonjour. Le président Félix-Antoine Tshisekedi s'adresse à la nation tout à l'heure dans un discours traditionnel qu'il va prononcer devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Ce discours intervient une semaine après sa dernière communication à la nation annonçant la fin de la coalition FCC et la nomination incessante d'un informateur pour identifier une nouvelle majorité. Michel Kifindangoy nous décrit l'ambiance qui règne actuellement au Palais du Peuple avant le début de l'événement.
Mise en place terminée au Palais du Peuple, le président de la République prononce son discours sur l'état de la nation tout à l'heure à 13h d'après le communiqué du protocole d'État. Ce discours d'une heure sera retransmis en direct à la RTNC, à la radio Okapi ainsi qu'à plusieurs autres médias qui prendront le relais de la RTNC. Et c'est sous une haute surveillance d'un dispositif sécuritaire constitué de la garde républicaine et de la police nationale congolaise que les invités réussissent à accéder au Palais du Peuple. Ce discours du chef de l'État intervient dans un climat politique tendu avec la dissolution de la coalition FCC-CACH, la déchéance du bureau de l'Assemblée nationale ainsi que les tractations en cours pour la formation d'une nouvelle majorité parlementaire par les adhésions à l'Union sacrée de Félix Tshisekedi. Alors que la dynamique pour la sortie de crise en RDC juge irrégulière la convocation de ces congrès par les bureaux d'âge de l'Assemblée nationale non habilités et conjointement avec le bureau du Sénat, les rapporteurs du bureau d'âge précisent que cette décision de convoquer le congrès a été prise le 8 décembre dernier, avant même la déchéance du bureau Mabunda.
Par ailleurs, la question des réformes institutionnelles en RDC comme préalable pour les prochaines élections était au centre des échanges entre Jean-Pierre Lacroix, le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix d'une part et d'autre part, Martin Fayulu et Adolphe Muzito, tous deux de la Mouka. La rencontre a eu lieu cet avant-midi à Kinshasa. Selon Adolphe Muzito, ces réformes doivent se faire dans un cadre neutre. Il est au micro de Paul Matendo.
Ils sont d'accord avec nous qu'il faut des réformes pour notre pays, des réformes institutionnelles qui concernent la loi électorale, la CENI elle-même, la centrale électorale et la Cour constitutionnelle. Nous leur avons dit que ces réformes sont importantes et tout le monde est d'accord désormais qu'il faut des réformes comme préalable pour les prochaines élections. Maintenant, quel est le cadre? Nous avons, comme toujours, indiqué le fait qu'il était nécessaire, faute de légitimité dans les parlements dont on se dispute la majorité aujourd'hui entre M. Tshisekedi et M. Kabila, qu'il faut trouver un espace neutre, consensuel et dans lequel nous allons discuter de manière consensuelle et paritaire. L'Union sacrée comme structure dépendante de M. Tshisekedi égale au FCC-CACH, structure, si vous voulez, partisane. Ce n'est pas ces cadres qu'il faut. Et donc si désormais le Parlement est à majorité Tshisekedi, ça va toujours être partisan. Kabila ne sera pas d'accord.
Et juste après la Mouka, Jean-Pierre Lacroix a rencontré les leaders du Front commun pour le Congo. Au sortir de leurs entretiens, Néhémie Mouilanya, coordonnateur du FCC, a indiqué qu'ils ont parlé de la crise politique en RDC, caractérisée entre autres par la rupture de la coalition FCC-CACH, mais aussi la crise institutionnelle à l'Assemblée nationale avec la destitution du bureau Mabunda. Direction l'Ituri, ouverture ce lundi du centre de désarmement volontaire des éléments de la force de résistance patriotique de l'Ituri FRPI à Karachi. Nous sommes à environ 70 km au sud de Bunia, territoire d'Irumu. Selon le chargé de mission du programme Starek en Ituri, ce site va servir d'espace où ces miliciens déposeront officiellement leurs armes avant d'entamer le processus de leur réinsertion communautaire. La notabilité locale parle d'une avancée dans la recherche de la paix au sud d'Irumu. Martial Kiza nous en dit plus.
Il s'agit d'un processus de démobilisation, désarmement et réinsertion communautaire qui est en cours d'exécution. Pour y arriver, tout élément de la FRPI devra tout d'abord déposer volontairement son arme et bénéficier en retour d'un certificat de désarmement, ce qui lui permettra de participer au projet de réinsertion pour être utile à sa communauté, souligne Jean-Marc Emazio, le chargé des missions du programme Starek. Pour la réussite de ce projet, les Starek avec ses partenaires d'exécution sensibilise les miliciens de la FRPI à adhérer à ces processus qui laissent entrevoir enfin une paix durable dans la région. Jean-Marc Mazio.
Les miliciens arrivent, déposent, ils reçoivent le certificat de désarmement et après, pour intégrer directement le projet de recherche, ils vont commencer déjà à toucher un peu de moyens pour la survie et puis contribuer à la reconstruction de sa communauté. Donc ça peut pour 2 mois.
Tout en saluant l'ouverture de ces sites, certains habitants joints au téléphone depuis Guéti souhaitent que les miliciens qui sont les premiers concernés s'investissent en fond pour la réussite de ces projets. Ce site sera géré par le gouvernement provincial à travers les Starek et avec l'appui logistique de la Monisco. Bounia, Martial Kizabiamongu, Radio Okapi.
Restons en Ituri, le village Saoué s'évite de ses habitants. Il est situé à la périphérie du centre commercial d'Iga Barrière, territoire de Djougou. Situation consécutive à l'incursion la nuit dernière des miliciens de la Codeco dans cette entité. Selon le chef de ce village, les assaillants ont tiré plusieurs coups de feu lors de l'incursion. Des maisons ont été incendiées, affirme Lingo Dada. C'est hors la loi. Sont partis de Nyarada, une entité voisine du secteur de Walendu Djati. Le chef du village Saoué dit déplorer le fait qu'il n'y a aucune présence des forces de l'ordre sur place. Dans le territoire de Beni, ce bilan controversé de la récente attaque du village Nzenga, situé dans le secteur de Rwenzori, attaque perpétrée par des présumés IDF. Selon les FARDC, le bilan est passé de 6 à 12 civils tués, alors que la société civile locale parle de 27 civils tués et 32 personnes portées disparues. André Kitenge.
Dans un communiqué rendu public hier dimanche, le commandement des opérations Sokola 1 indique que l'incursion des rebelles ADF en Nzenga dans la nuit de vendredi à samedi dernier a été facilitée par un habitant du milieu. Lors de la poursuite engagée et des patrouilles nocturnes dans la région, l'armée affirme avoir découvert 6 autres corps de personnes kidnappées, mais aussi avoir neutralisé 5 rebelles ADF et récupéré 2 armes AK-47. Ce qui porte à 12 le nombre de civils tués, hormis les maisons incendiées et les boutiques pillées par les assaillants. La société civile, quant à elle, avance le chiffre de 27 civils tués et une trentaine d'autres portés disparus. Isaac Nyoni, président de la coordination de l'ONG Action pour la paix en Afrique APA dans la ville et territoire de Beni, explique.
Nous avons un bilan de 27 personnes, mais notre corps ne sont pas encore relâchés dans la forêt. Mais aussi, il y a 32 personnes qui ont été portées disparues de l'agglomération de Ndoma, à Kabala, le Solos, même à Ndenga. Mais aussi, il y a 3 gardes finales qui ont été tués par la population dans l'agglomération de Rouguette et Lume.
Pour le moment, affirme la société civile et l'armée, le calme est revenu dans la région. Cependant, cette situation d'attaque a occasionné la paralysie des activités et un déplacement massif de la population de Nzenga vers Kasindi, Luganda et Beni. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Nord Kivu toujours, situation sécuritaire relativement calme depuis plusieurs jours dans une grande partie du territoire de Walikale. Situation consécutive notamment aux efforts des FARDC qui mènent des opérations pour pacifier cette partie du pays. Du coup, on observe le retour progressif des centaines de déplacés dans une dizaine de villages, signale l'administrateur assistant de Walikale. Bienvenue Lubwende plaide cependant pour une assistance en faveur de ces retournés qui ont tout perdu pendant les accrochages. Denise Lukeso.
L'administrateur assistant de Walikale estime à 80% le retour des déplacés dans leur village d'origine. Depuis un mois pour certains et au moins deux semaines pour les autres. Un retour qui est progressif avec la sensibilisation que mènent les autorités locales. Il s'agit des déplacés des villages Mpofi, Kembe, Luvungi, Pinga, Mutongo, Kumbwa, Kailenge, Kigoma, Binyampuri, Lubunga, Kibua notamment, qui avaient fui leur village depuis plusieurs mois. C'est suite aux opérations militaires contre les groupes armés. Mais seulement, ces retournés sont dépourvus de tout, alerte l'administrateur Bienvenu Lubwende, qui plaide pour une assistance humanitaire en faveur de ces retournés.
Les enfants ont repris déjà les chemins de l'école et pour reprendre la vie est un peu compliqué, raison pour laquelle nous demandons à nos organisations internationales de bien vouloir venir en aide à notre population qui est rentrée sans rien. Parce qu'il y avait des maisons détruites, des choses pillées, ils sont rentrés comme ça, reprendre la vie, c'est pas facile.
Cette autorité territoriale salue les opérations que mène la force loyaliste pour pacifier l'ensemble du territoire de Walikale. Il appelle ses administrés en déplacement à retourner chez eux. Goma, Denise Lokeso, Radio Kapi.
Kasaï Central, le syndicat national des médecins Sinamed, dit condamner les actes d'atrocité et de barbarie commis par des bandits armés sur les médecins et leurs familles. Cette corporation l'a fait savoir dans un mémorandum adressé aux autorités au niveau national et provincial. Dans ce document, les blouses blanches évoquent 6 cas en l'espace d'un mois à Kananga. Écoutez plutôt le président provincial de la commission contrôle de Sinamed, le docteur Jean-Pierre Mboui, au micro de François Kadima.
Le médecin centre kassaïen sont devenus cibles et en même temps victimes des atrocités des bandits armés qui sèment à leur passage désolation et tristesse. Soit un médecin après tous les 5 jours. Le cas échéant est celui vécu le samedi 5 décembre 2020 par un couple médecin. Tous deux ont été déshabillés avant de recevoir chacun une balle au genou et à la jambe gauche devant leurs propres enfants. La vie humaine étant sacrée, l'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. Le Sinamed Kasaï Central déplore et condamne vivement les actes d'atrocité et de barbarie commis par ces malfrats visant personnellement le médecin et leur famille.
Province de la Tchopo, le président de l'Assemblée provinciale demande à la Cour d'appel de Kisangani de suspendre la détention et les poursuites judiciaires contre 3 députés provinciaux arrêtés samedi et détenus à la prison centrale de Kisangani. Gilbert Bokungu a lancé cet appel cet avant-midi au terme d'une brève séance plénière consacrée à cette situation. Rappelons que les 3 députés en détention ont été surpris ce week-end par le ministre provincial de l'Intérieur en train de faire passer des camions de transport sans payer les taxes dues à l'État. Le même ministre les accuse d'avoir ôté la veille des barrières de la direction provinciale des recettes de la Tchopo sur la route de l'Ituri. Et puis, l'efficacité de la riposte au coronavirus passe aussi par la lutte contre la corruption et les antivaleurs. C'est ce que pense le coordonnateur provincial de l'Observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle, OCEP Équateur, Taylor Lompo-Kompela, l'a dit samedi à l'occasion de la prestation de serment des 3 cadres de cette institution formés comme des officiers de police judiciaire. Taylor Lompoko, coordonnateur provincial de l'OCEP Équateur, est au micro de Paul-Richard Malengela.
En ces temps de crise sanitaire que le monde vit actuellement avec la pandémie de COVID-19, la lutte contre le virus offre de nouvelles possibilités d'exploiter la faiblesse des systèmes de contrôle et le manque de transparence, de détourner des fonds destinés aux populations au moment où ils en ont plus besoin. À ce titre, la corruption est considérée comme un acte criminel, immoral. C'est donc la trahison ultime, confiance publique, qui cause encore plus de préjudice. L'ordonnance 78/001 du 24 février 1978 nous accompagnera en tant que OPJ dans les missions nous assignées ci-dessous. Rechercher, constater les infractions sur différents PV, rassembler les preuves des différentes infractions, rechercher les auteurs. Nous avons le devoir de continuer ces combats pour protéger les citoyens et leurs biens. C'est cela l'état de droit que nous voulons instaurer. La bonne gouvernance et la lutte contre la corruption sont indiscutablement les priorités.
Actualité internationale.
D'abord, ce rapport de RSF, Reporters sans frontières, la crise sanitaire a accentué la répression contre les journalistes. Selon ce document publié aujourd'hui, 387 journalistes sont emprisonnés à l'heure actuelle à travers le monde. Un bilan qui met aussi en lumière la hausse des arrestations arbitraires en lien avec la crise sanitaire. 5 pays concentrent plus de la moitié des journalistes, soit 61%, indique Reporters sans frontières dans son rapport annuel. Et la Chine reste en tête de ce triste palmarès avec 117 journalistes professionnels ou non détenus. Et puis cette alerte de l'OMS et l'UNICEF, un établissement de santé sur 4 dans le monde est dépourvu des services d'approvisionnement en eau, ce qui expose le personnel de santé et les patients à un risque plus élevé d'infection au Covid-19, signale un rapport publié ce lundi conjointement par l'OMS et l'UNICEF. Selon l'OMS, la proportion des professionnels de santé infectés par le coronavirus est beaucoup plus élevée que dans le reste de la population. Et puis en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara prête serment aujourd'hui pour un troisième mandat présidentielle à la tête de ce pays, une cérémonie qui se tient au palais présidentiel d'Abidjan et à laquelle sont annoncés plusieurs chefs d'État africains. Ceci intervient dans un contexte intérieur de blocage politique malgré une décrispation amorcée le 11 novembre par une rencontre avec le leader du PDCI, Henri Conan Bédié, processus resté au point mort depuis.
L'invité.
Il nous vient du Nord Kivu. Deux laboratoires d'analyse des cas suspects au coronavirus viennent d'être installés à la division provinciale de la santé de Butembo et de Beni. Dans ces deux villes, les premiers tests ont été effectués localement ce week-end. Ces appareils sont dotés par l'Institut national des recherches biomédicales INRB. L'annonce a été faite à la presse aujourd'hui par le chef d'antenne intérimaire de la DPS Butembo, Guy Makelele. C'était au sortir d'un échange avec le maire intérimaire de Butembo. Guy Makelele est avec Florida Kahambu.
Monsieur Guy Makelele, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui vous a amené à la mairie?
Si je suis passé à la mairie ce matin, c'était juste pour échanger avec l'autorité locale, dire que depuis le vendredi, nous avons lancé les tests Covid sur place ici à Butembo et que c'était vraiment la grande demande de la population et de nous-mêmes. Voilà un peu le but de notre passage ici à la mairie de Butembo.
Et où est-ce que ça fonctionne?
Bien, comme vous le savez, on vous disait déjà à l'époque que l'INRB était ici, à Butembo, comme à Beni, pour dire que le laboratoire est opérationnel au même endroit, c'est toujours au niveau de l'antenne DPS. Et ça, c'est pour la partie de Butembo. Le même exercice a été fait à Beni. Là, c'est toujours à l'hôpital général de référence de Beni. Et c'est comme ça, je peux dire que à ce stade, tout se passe très bien. Et la première journée, on a pu analyser 111 échantillons. Ça, c'est pour Butembo. Après ça, on en a analysé 9. Et le jour qui a suivi, c'était 5, pour dire qu'à ce stade, on a pu analyser 125 échantillons, mais heureusement que tous ces échantillons se sont révélés négatifs. Cependant, pour Beni, nous avons fait le même exercice à Beni hier dimanche. On a analysé 4 échantillons et là, il y a eu 2 échantillons qui sont révélés positifs. Donc, pour dire que le problème demeure, on est toujours frappé par la pandémie.
Alors, ces échantillons-là, ce sont des échantillons prélevés sur des cas suspects ou c'était des personnes qui se sont amenées elles-mêmes?
Ah, très bien. Ça, vraiment, je tiens à attirer l'attention de la population. C'est pas un laboratoire qui est ouvert où tout le monde vient et dit « bon, faites-moi le test Covid ». Ça ne se passe pas comme ça. Ce sont vraiment les suspects qui sont concernés. Quand je vois le suspect, je vois le volet de la surveillance, je vois le volet de la prise en charge. Donc, tout doit respecter les créneaux. C'est au prestataire d'apprécier si vous êtes éligible. Si vous ne l'êtes pas, c'est pas que tout le monde viendra pour commencer à dire « voilà, faisons le test Covid ». Non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Vraiment, j'insiste sur ces aspects-là. Et j'en profite pour vous dire que le volet test Covid voyage n'a pas encore commencé aussi bien ni à Beni, ni à Butembo. On est en train d'échanger avec les autorités provinciales, les autorités nationales, et du coup, j'en profite pour remercier sincèrement toutes nos autorités, aussi bien au niveau national qu'au niveau provincial, à savoir Son Excellence le gouverneur des provinces, le ministre de la Santé provincial, et bien sûr les chefs de division, parce que c'est avec le concours de toutes ces autorités qu'on a pu avoir ça, bien sûr, sans oublier les autorités locales. Et vous aussi, la presse qui nous avait permis vraiment d'atteindre cet objectif. Et je tiens encore à insister sur le fait que le test Covid concerne les cas suspects. Voilà.
À terme clair, ça veut dire que quelqu'un se sent mal, va à l'hôpital. C'est l'hôpital qui peut envoyer son échantillon au laboratoire pour analyse.
Parfait. Vous avez exactement compris. Ce n'est pas à chaque individu de demander que, on lui fasse le test COVID. Sinon, si on doit procéder de la sorte, on sera débordé. Il n'y aura plus rien. Et encore que nous devons être rationnels avec nous-mêmes. COVID voyage, c'est payant. Ça restera payant. Et encore que ça n'a pas encore commencé. Mais pour les malades, ce n'est pas payant. C'est vraiment la gratuité. Et ça suit le schéma officiel. Ce n'est pas au malade de demander cela. C'est le prestataire qui apprécie.
Ça fait longtemps que vous étiez en train de plaider pour la mise en place de ces laboratoires. Est-ce que cette mise en place vient résoudre tous les problèmes que vous étiez en train de décrire?
Ah, voilà. Vous avez bien dit. Le laboratoire, c'est une chose. Le laboratoire a des exigences. Les cartouches, il faut les acheter pour dire qu'il y a du paquet qu'il faut mettre là. Ou même, vous voyez le temps que ça nous a pris pour que le laboratoire soit vraiment opérationnel. Il y a des sacrifices. Du coup, je vous dis que le laboratoire ne va pas résoudre tous les problèmes. Le rendu des résultats, il fallait envoyer les échantillons. Parfois, on recevait les feedbacks après 2 semaines. Et il y a même des gens qui ont dit qu'ils n'ont jamais reçu de feedback, avec tout ce que cela a entraîné comme conséquence au niveau de la communauté. Donc, pour dire que le labo est là, mais chacun doit toujours agir et en tant que responsable. Vraiment, les labos sont là, les deux, donc Beni et Boutembo, qui sont opérationnels, mais que cela ne soit pas une occasion pour devenir négligent, négligence par rapport au respect des mesures barrières. Nous devons toujours continuer à respecter les mesures barrières.
Monsieur Guy Makelele, merci.
En tout cas, je vous remercie.
Voilà, c'était là notre invité, le chef d'antenne intérimaire de la division provinciale de la santé de Boutembo. Guy Makelele s'entretenait avec Florida Kahambo. Ainsi prend fin ce journal coordonné par Élisée Chikota Chivueta. Supervision de Ben Kabamba et Martin Sebujangwe, à la mise en onde Jean-Noël Mokondo et Belinda Bosuma vous l'a présenté. Merci.